Cela dit, je note quand même que la Suède, qui est un fervent partisan de l'Union européenne, va n'ouvrir qu'un chapitre, alors que nous, les Français, sous la présidence française de l'Union européenne, nous avons ouvert deux, finalement. Alors, ils en ont bloqué cinq, c'est vrai. Alors, monsieur Bernard, vous allez nous parler de quelque chose qui est mal connu, qui est au fond la courbe ou le parallèle qui se fait entre le bon état des négociations et le bon état des investissements étrangers en Turquie. Autrement dit, il y avait jusqu'au début des négociations assez peu d'investissements étrangers en Turquie et on a vu effectivement une croissance très forte à partir du moment où les négociations ont commencé. Alors, comment ça se... D'abord, est-ce que vous pouvez nous confirmer ça? Et puis, depuis 4 ans, les négociations n'allant pas très très bien, est-ce que les investissements ont, eux, continué? Et au fond, est-ce que les Turcs qui disent que bon, ben, le plus important, ce n'est pas tellement de négocier, mais c'est d'avoir des investissements étrangers, est-ce qu'au fond, ils sont rassurés?
Ça fait beaucoup de questions. Donc, on a une heure à peu près?
En 10 minutes, oui.
En 10 minutes. D'accord. Écoutez, je vais essayer de vous répondre le plus succinctement possible. Mais tout d'abord, merci bien sûr au président Yücelecik de m'avoir invité à participer à ce débat. Et je souhaiterais saluer des amis qui me sont chers en la personne de l'ambassade de Turquie par son premier secrétaire et par Culture France, puisqu'on a la chance d'avoir et son patron et son... vice-patron, donc merci pour cet honneur et j'apprécie beaucoup leur présence. Alors, répondre à la question, aux trois questions que vous avez posées, c'est en fait répondre à deux problématiques. D'abord, pourquoi la Turquie est devenue une success story? Et est-ce qu'il y a, dans cette explication, est-ce qu'il y a un lien entre le processus d'adhésion et l'évolution des investissements? Alors, tout à l'heure, lorsque l'on m'a demandé un qualificatif, alors, je n'en ai pas donné un, j'ai dit « en devenir ». Pourquoi ? Pas trop vite. Hein. Normalement, je devais le faire moi-même, et puis j'ai eu la chance de quelqu'un qui accepte de le faire pour moi, de passer les slides. J'ai dit « en devenir ». Pourquoi ? Parce que le processus d'adhésion, le processus d'évolution de l'économie turque est un processus qui est continu, comme il a été souligné à plusieurs reprises depuis 1959, depuis 1963, de façon continue, mais en même temps avec des ruptures. C'est un processus qui est en devenir parce que quelquefois, au travers de certains qualificatifs qui ont été mis en avant comme le chaos ou comme les dérives, quelque chose doit être refondé. Peut-être aussi une confiance entre les deux partenaires, mais quelque chose est à souligner, je le souligne avec force, c'est un processus qui continue, qui n'arrête pas. Alors, la Turquie est devenue une success story. On va aller assez rapidement là-dessus. Ce sont des données que je peux vous donner plus tard. Les principales raisons, on va les voir très très rapidement. Vous avez des fondamentaux qui ont évolué de façon très significative. Et il faut savoir aussi de quoi on parle. On ne parle pas d'un petit pays qui va intégrer l'Union européenne comme certains pays de taille modeste qui ont intégré l'Union européenne en 2004. On a affaire, excusez-moi l'expression, à un mammouth. À un très gros pays, la 15e économie du monde, un pays qui fait 710 milliards de dollars de PNB, un peu moins en 2009 avec la crise, bien entendu, mais c'est un pays qui est dynamique, qui a eu une croissance pendant les cinq années entre 2003 et 2007 de l'ordre de 6-7%. C'était la plus grosse, et c'est toujours d'ailleurs, sauf pendant la période de la crise, la plus grosse croissance de l'ensemble des pays de l'OCDE. Un pays qui a su maîtriser ses principaux fondamentaux, comme l'inflation, comme le chômage chauffe depuis effectivement quelques mois, plus d'une année. Mais c'est un pays qui a su également beaucoup travailler dans le domaine de la gouvernance. Ce qui, et vous le verrez tout à l'heure quand on va faire le lien entre le processus d'adhésion et les investissements, et les flux d'investissement et leur évolution, c'est très important pour un investisseur. Un solde budgétaire qui est en deçà, sauf cette année, comme vous l'avez dit, pas de langue de bois, sauf cette année, qui est en deçà des critères de Maastricht, une dette publique, très en deçà. Je ne vais pas rappeler la dette publique française, elle est très légèrement différente. Des réserves en devises qui ne sont pas mauvaises, qui ne sont pas mauvaises pour un petit pays, si j'ose dire, mais surtout des éléments, et je n'en ai cité que trois, qui sont très importants pour montrer qu'est-ce que c'est la Turquie d'aujourd'hui. C'est un pays qui a une main-d'œuvre qui est qualifiée, qui est motivée, qui a une éthique au travail, qui a une productivité qui, on va dire bon an, mal an, fait à peu près 6% de croissance par an de productivité. Pour un investisseur, c'est important. C'est une population qui est jeune, très jeune, moyenne d'âge 28-29 ans, à peu près. C'est une force de travail qui est formée, bien formée, compétente, et comme je le disais tout à l'heure, qui a une éthique. Pour un investisseur, c'est très important. Et dernier petit point, ça c'est pour le fun, la Turquie essaie de consacrer à peu près 2% de son PIB à la recherche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Turquie s'inscrit encore une fois dans une logique de dynamique. Elle sait que l'innovation, la recherche technologique, c'est l'avenir. Alors, là, on va être très rapide sur ces éléments. Si vous avez besoin de les avoir, je vous les enverrai avec plaisir. C'est une économie en pleine croissance, une population jeune, une société civile qui pousse beaucoup. Tout à l'heure, j'aimerais que l'on revienne 20 secondes ou 25 secondes avec la permission d'Ariane sur quelque chose qu'a dit M. Servantier qui est très juste. Est-ce que c'est l'attitude des dirigeants qui a posé un problème ou qui ralentit quelque part le processus d'adhésion ou l'adhésion à ce processus d'adhésion? Est-ce que c'est l'attitude de l'opinion publique? Je pense que la relation entre les deux est beaucoup plus complexe et en fait elle est beaucoup plus interactive. Alors, une forte volonté de réforme politique, ça, c'est un élément très important pour un investisseur. Et je crois que, malgré tout ce que l'on peut dire, et malgré les ruptures dont je parlais tout à l'heure, il y a une continuité dans cette volonté d'aller jusqu'à son terme. Le 9 octobre dernier, le président Gül est venu ici, l'a rappelé. C'est une volonté indéfectible d'aller jusqu'au bout, quels que soient les problèmes et quels que soient les obstacles. Une assimilation des acquis communautaires à 55%. Pour un investisseur international, c'est très important. C'est un lien supplémentaire, vous allez voir. Et un couloir énergétique qui fait de la Turquie un pays stratégiquement, on va dire géostratégiquement, et là c'est plus du domaine de Didier Billon, un pays géostratégiquement extrêmement important. Alors, on va passer rapidement sur ces éléments, les exportations, les normes juridiques, un marché très attractif, c'est très important. Rappelons simplement que la Turquie est un pays de 72 millions de consommateurs. Pour un investisseur, c'est intéressant comme données. On n'est pas dans des pays que j'adore à titre personnel, comme Monaco, où il y a 30 000 habitants. C'est 72 millions de consommateurs potentiels qui ont un pouvoir d'achat en croissance depuis 7 ans, en croissance continue. Depuis 7 ans, le pouvoir d'achat a été multiplié par 3. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de pays de l'OCDE qui aient réussi cet exploit. Alors certes, vous allez m'objecter avec raison qu'ils sont partis de beaucoup plus bas. C'est vrai. Mais on est toujours dans cet esprit de dynamique. Autre point extrêmement important qui plaît aux investisseurs et qui peut expliquer pourquoi le processus d'adhésion a eu un effet positif, c'est que la Turquie également, hormis son marché intérieur qui est extrêmement important, extrêmement attractif, pour des exportateurs ou pour des investisseurs, c'est un pays qui est également un pays passerelle sur tout un ensemble de pays pour lesquels le pays devient le pont. Le pays avec lequel nous, par exemple, investisseurs français, nous pouvons nous associer pour conquérir de nouvelles parts de marché, pour conquérir de nouvelles positions. Allons-y. Alors, très rapidement, ça vous donne une petite idée de cet aspect extrêmement stratégique. On va dire de façon très caricaturale, tout ce qui est à gauche, c'est-à-dire tout ce qui est à l'est du pays, c'est à peu près 75% des réserves mondiales. Tout ce qui est à l'ouest, c'est à peu près 75% de la consommation mondiale. La Turquie a un rôle pas inintéressant. On a parlé de Nabucco, il y a beaucoup d'autres projets qui sont en cours, notamment avec la tentative de rapprochement stratégique, très intéressante entre la Turquie et la Russie avec le projet South Stream. Allons-y. Et je parlais tout à l'heure du positionnement géostratégique dont parlera beaucoup mieux Didier Billon que moi. Simplement pour vous rappeler, ce n'est pas une cible de tir, hein. À moins de 4 heures de la Turquie, vous avez à peu près 85% de la richesse qui est produite en Europe. C'est un pays central. C'est un pays sur lequel on peut s'appuyer, c'est un pays sur lequel, avec lequel on peut travailler pour conquérir les marchés tiers. Allons-y. Alors, qu'est-ce qui fait que la Turquie est une success story? Il y a tout un ensemble de choses, des fondamentaux dont j'ai parlé, mais il y a également une volonté. et Toulon en Aime en a parlé tout à l'heure, une volonté qui s'est traduite aussi par des réformes structurelles nombreuses dans de nombreux domaines, des réformes économiques, politiques, sociales, fiscales, etc., etc., mais également par la volonté de donner au secteur privé un rôle moteur. Il y a, depuis quelques années, un gouvernement qui a développé une politique d'incitation, une politique d'aide publique aux investisseurs internationaux pour améliorer le cadre de cet accueil. Alors, plus précisément, y a-t-il un lien entre le processus d'adhésion et évolution des investissements ? Oui. Et c'est pour ça que j'ai parlé de devenir, parce que, pour moi, nous sommes dans un processus dynamique, avec ses ruptures, je le concède, mais nous sommes dans un processus dynamique. Ça a été très bien résumé tout à l'heure, je serai rapide. Avant 80, on était dans une économie, on va dire, protectionniste, fermée, politique de substitution aux importations. À partir de 83, Monsieur Özal, on est rentré dans une phase de libéralisation de l'économie. Alors, certes, pour certains, peut-être une libéralisation type capitalisme sauvage, avec ses excès, c'est bon côté, mais avec ses excès aussi. Et cette période a permis à l'économie turque d'être dans une phase de transition, de rentrer dans un mouvement d'adaptation à un secteur économique devant devenir moteur, qui est devenu le secteur économique, le secteur privé. À partir de 1996, date très importante, Union douanière, en 1996, ça a été une période, comme cela a été rappelé, qui n'a pas été obligatoirement acceptée tout de suite avec un grand sourire par la Turquie, parce que tout le monde avait peur que l'industrie soit réduite à néant, que le commerce soit réduit à néant, que, en fait, on en revienne quelque part, je m'excuse de revenir sur ce thème, aux capitulations. Hein ? Non. Cette période a été une période d'intensification, de l'adaptation de l'appareil économique turc, de l'appareil industriel turc. Une période d'adaptation à une future adhésion. 2001, ça a été probablement l'une des plus graves crises que le pays a traversées. À la limite, la crise actuelle est différente. La crise de 2001 a vu la quasi-destruction de son système bancaire et financier. Ça a été terrible, mais ça a été également l'occasion de refonder complètement ce système qui, aux yeux de M. Barroso, qui nous l'a dit il n'y a pas très très longtemps au Bruxelles Summit, qui est devenu probablement l'un des systèmes financiers, l'un des systèmes bancaires les plus sûrs actuellement en Europe et dans le monde. Depuis 2002, il y a eu la mise en place d'un véritable et d'un vaste programme de réformes. Des réformes, comme vous le voyez, du secteur public, du secteur financier, de la sécurité sociale, des réformes fiscales, mais surtout des réformes en faveur de l'économie pour placer le dynamisme du secteur privé au centre du développement économique du pays et pour le mettre de plus en plus en convergence avec les standards européens. Alors, au niveau des investisseurs, nous, petits investisseurs internationaux, quand on voit que le gouvernement met en place une politique volontariste pour baisser l'impôt sur les sociétés, pour stimuler, je dirais, la libre entreprise, pour accepter l'ensemble des arbitrages internationaux, pour promouvoir le libre transfert, pour protéger l'investissement, avec une convention qui vient d'être signée il y a très peu de temps entre la France et la Turquie, pour protéger les investissements croisés, c'est très important. L'accroissement du secteur privé, du rôle du secteur privé, depuis 2002, est un objectif de ce gouvernement, de ce pays. Et 2005, début du processus d'adhésion. Alors, il faut savoir que jusque dans les années 2002, 2003, 2004, bon an, mal an, la Turquie a tiré à peu près 700 millions, 1 milliard, a dit 1 milliard 2 de dollars dans les bonnes années. À partir de 2004-2005, ça change. L'ensemble des structures, des réformes structurelles, qui ont été mises en place à partir de 2002, mais également tout le travail préparatoire qui a été fait à partir de 1996, ça a permis quoi ? De façon très directe, une stabilisation de la vie politique, avec l'émergence d'un gouvernement avec un seul parti, ça évite les coalitions, avec des avantages et des inconvénients, ça c'est un autre débat. une amélioration très significative de la gouvernance du pays. Et ça, pour un investisseur, c'est absolument fondamental. Un investisseur ne va pas dans un pays dans lequel il n'a pas confiance. Si on améliore la gouvernance, on améliore de façon quasiment directe et quasiment immédiate la confiance. Les investisseurs ont besoin de long terme. La stabilisation de la macroéconomie en Turquie a permis aux investisseurs d'avoir une vision de long terme. Et cette stabilisation a été en grande partie aidée par ce processus d'adhésion à l'Union européenne. Monsieur Savantier le disait tout à l'heure, il y a eu, à partir des années 96, mais surtout à partir de la réalité du début du processus de négociation, l'émergence de besoins extrêmement importants pour que la Turquie rattrape les standards européens dans tout un ensemble de domaines. On a parlé de la santé, on a parlé de l'environnement, mais on peut parler des infrastructures, on peut parler de l'éducation, on peut parler d'énormément de choses. On parle de 60 milliards d'un côté, mais il y a beaucoup d'autres dizaines ou centaines de milliards qui sont à débloquer dans d'autres domaines. Et la Turquie a-t-elle les moyens de débloquer elle-même ces fonds gigantesques qui représentent des centaines de milliards? Non. D'où l'intérêt et d'où la nécessité de promouvoir les investissements internationaux. Alors, à peu près à cette époque, en 2006, l'Agence nationale des investissements de Turquie, dont je suis le représentant, a été créée par la volonté du Premier ministre. C'est dire, et nous sommes directement rattachés à lui, et c'est dire l'importance que le gouvernement attache à l'accueil des investissements internationaux qui représentent un flux indispensable au développement du pays dans la situation actuelle. Alors, les conséquences pour les investisseurs internationaux, ça a été quoi? Tout simplement que l'économie turque est devenue lisible. Je me souviens quand j'étais en Turquie il y a une quinzaine d'années et quand je demandais à quelqu'un de me faire un business plan à long terme, il me sortait un business plan de 3 mois. Ça ne savait pas faire mieux. Maintenant, on est revenu à quelque chose de tout à fait dans les standards européens. La lisibilité de l'action politique, même si quelquefois elle peut porter à confusion, est un élément très important de confiance. Et surtout, comme ça a été souligné tout à l'heure, les opportunités d'investissement à long terme sont effectivement très nombreuses. Oui. Alors, de façon chiffrée, voilà le résultat de ce que l'on pourrait appeler le lien direct entre le processus d'adhésion et tout ce qu'il a amené en débat interne et en opportunités, et les investissements internationaux. À partir de 2005, comme vous le voyez, la courbe elle est pratiquement exponentielle. Elle augmente de façon extrêmement significative. Et ces afflux d'investissements directs étrangers sont déconnectés des privatisations, qui sont un autre domaine. Le nombre des entreprises étrangères, internationales, qui travaillent en Turquie, était de l'ordre de 5 à 6 000. Il y en a au jour d'aujourd'hui à peu près 23 000 en 2009. La Turquie est un pays qui attire énormément d'investissements internationaux parce que les investisseurs internationaux ont confiance dans le devenir de ce pays et dans le fait que ce pays se rapproche de plus en plus des standards qu'il recherche, c'est-à-dire, pour prendre l'Europe, des standards européens traditionnels. Et je vais terminer, pour éviter de me faire couper le micro, je vais terminer juste en vous rappelant une étude qui est sortie cette année, qui était sortie par... on se fait vieux, on oublie. Bon, c'est une grande banque américaine, Goldman Sachs, merci. Goldman Sachs, et qui vient après des études qui ont été sorties par Pricewaterhouse, qui disait la Turquie, le positionnement de la Turquie en classement mondial, aujourd'hui la Turquie est 15e ou 16e selon les sources, d'après Price, elle sera 12e dans 25 ans. D'après Goldman Sachs, elle sera 9e. Dans le même temps, un certain nombre d'économies européennes actuellement très bien positionnées dans ce classement mondial vont être dégradées légèrement, pour tout un ensemble de raisons. D'abord parce qu'elles évoluent d'une façon différente. Donc, il est extrêmement important que le processus d'adhésion, d'une façon ou d'une autre, aille à son terme, parce que dans tous les cas de figure, il est avant tout pour la Turquie elle-même un atout. Les investissements internationaux, donc je réponds directement, ont effectivement été très positivement impactés par le processus d'adhésion et il est nécessaire que ce processus d'adhésion, quelque part, continue, soit renforcé et peut-être soit refondé sur des bases de confiance différentes. Je vous remercie.
Merci.